Religion du monde. Véronique Guémard. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour à toutes et à tous. Ce chant qu'on entend s'intitule Poder Amoroso, pouvoir amoureux. C'est un chant Shipibo-Conibo, un peuple amérindien d'Amazonie qui vit notamment au Pérou, en Amérique du Sud, dans le département d'Ucayali, sur les rives du fleuve et ses affluents, dans un écosystème très riche de la haute Amazonie, mais également très menacé. Donc c'est un des 55 peuples indigènes du Pérou. Aujourd'hui, beaucoup d'Indiens Shipibo-Conibo ont rejoint des centres urbains au Pérou, mais il existe encore des communautés qui vivent de manière traditionnelle et qui pratiquent leurs croyances ancestrales, notamment avec l'ayahuasca, une liane aux propriétés hallucinogènes. Nous allons en parler de cette utilisation traditionnelle et du tourisme chamanique qui a transformé son usage. David Dupuis est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et commissaire de l'exposition Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne qui se déroule au musée du Quai Branly à Paris jusqu'au 26 mai 2024. Alors tout d'abord, vous qui avez longtemps travaillé dans cette région de l'Ucayali au Pérou, racontez-nous qui sont les Shipibo-Conibo.
Alors les Shipibo-Conibo, c'est un peuple, donc, comme vous l'avez dit, autochtone d'Amazonie péruvienne qui compte aujourd'hui environ 35 000 personnes, donc, qui est initialement originaire des rives du fleuve de l'Ucayali, mais qui a progressivement migré dans les villes avoisinantes comme Pucallpa et aussi à Lima, dans un quartier de Lima qui s'appelle Cantagallo. Et donc c'est un peuple qui, initialement, traditionnellement, vit plutôt de chasse, de pêche, d'horticulture, et qui a été connu dans les dernières décennies, notamment pour son art, qui est mis à l'honneur dans cette exposition au musée du Quai Branly, l'art à la base qui est basé sur les kénés, donc ces compositions géométriques extrêmement fortes d'un point de vue visuel, et qui, dont le nom aussi est associé aujourd'hui au tourisme chamanique, à l'ayahuasca. Donc voilà, c'est un peuple emblématique des peuples autochtones d'Amazonie péruvienne dont le nom circule beaucoup à l'échelle internationale.
Alors on va parler effectivement de l'ayahuasca. Alors quelles sont leurs croyances? On parle de quatre mondes dans la cosmovision Shipibo-Conibo. On parle du monde de l'eau, donc ce monde qui est habité par les esprits de l'eau, un des plus puissants, le bois géant. Enfin, on imagine l'anaconda qu'on retrouve aussi dans les représentations, les motifs qui inspirent les kénés, les sirènes aussi, les poissons. Ensuite, il y a notre monde, donc les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, les arbres, qui sont tous habités donc, par les esprits, des esprits des plantes comme l'ayahuasca ou le tabac qui sont utilisés. Vous allez nous en parler, David Dupuis. Le monde jaune aussi, alors c'est le monde des mauvais esprits. Le ciel, où vont les âmes des hommes, des animaux, des plantes. Le monde de l'espoir, où le malade aussi peut trouver la guérison. Après la mort, on devient une étoile, la lumière est immortelle. Bref, toutes ces croyances, finalement, sont dans cette cosmogonie des Shipibo-Conibo. C'est quelque chose qu'on retrouve, que vous avez retrouvé vous-même. Vous avez passé du temps sur le terrain, vous êtes resté plus de 18 mois. Comment vous avez ressenti ces pratiques, puisque ces croyances sont utilisées aussi dans les pratiques de guérison chamanique?
Oui, tout à fait. Alors peut-être plutôt que de croyances, je préférerais parler de rapport au monde, puisque effectivement, les Shipibo-Conibo, comme d'autres peuples d'Amazonie, ont leur rapport au monde qui est caractérisé par ce qu'on appelle l'animisme. Donc l'animisme qui consiste à distribuer assez généreusement des intériorités à des êtres qui, pour nous, en sont dénués. Donc, vous voyez, en Occident, en Europe, on vit dans ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette idée que, en gros, les humains ont un peu le monopole de l'intériorité, de la subjectivité, de la conscience, du fait d'avoir des intentions.
De l'âme.
Voilà, on pourrait appeler ça l'âme ou la personnalité. Alors évidemment, éventuellement, on peut en attribuer un petit peu aux chats, aux chiens dans la société, mais pas beaucoup plus. Vous voyez, il y a les humains, puis le reste, c'est un petit peu du paysage. Voilà, ce qui caractérise le rapport au monde de Shipibo et plus largement de nombreux peuples autochtones d'Amazonie péruvienne, c'est l'animisme, c'est-à-dire qu'on va attribuer des intériorités à des êtres non humains. C'est simplement cette idée que, bah, y a quelqu'un à l'intérieur de la plante. pour dire les choses simplement. Donc il y a un esprit du tabac, vous voyez, il n'y a pas un esprit pour chaque plante de tabac. Et donc il y a cette idée qu'à l'intérieur de certaines plantes, certains animaux, mais ça peut être aussi éventuellement de certaines montagnes, fleuves, il y a une personnalité qui a des traits de caractère et avec lesquels on peut entrer en contact, avec lesquels on peut entrer en relation. Et effectivement, donc là, on entre dans ce qu'on appelle le chamanisme, c'est-à-dire cet art d'entrer en relation, de rencontrer ces êtres, de tisser des relations avec ces êtres au bénéfice notamment de la communauté. Donc l'usage de l'ayahuasca, mais aussi d'autres plantes, parce qu'en Occident, on parle beaucoup d'ayahuasca, mais il y a beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées par les Shipibos. L'ayahuasca va notamment être utilisée pour entrer en relation, pour rencontrer ces êtres et tisser des relations durables avec ces êtres.
Alors, avant de vous accueillir ici en studio, David Dupuis, je vous avais retrouvé il y a quelques jours au musée du Quai Branly. Nous étions au début de cette exposition Vision chamanique, devant de magnifiques photos en noir et blanc d'Indiens Shipibos que vous me décriviez.
Voilà, alors c'est une série de photographies en noir et blanc qui sont effectivement très belles, qui ont été réalisées par le photographe David Diaz-Gonzalez, que j'ai rencontré il y a 2 ans lors d'une mission de terrain en Amazonie péruvienne, à Pucallpa. Et David Diaz-Gonzalez est un photographe Shipibo Conibo lui-même. On a ici une série de photographies où l'auteur photographie des membres de sa communauté, dont il est originaire. Et donc une communauté urbaine donc de Shipibo qui ont déjà migré d'espaces forestiers vers des espaces urbains. Et alors une petite anecdote intéressante sur cette série, c'est qu'on a parfois l'impression que donc, ce sont vraiment des photographies de la vie quotidienne. Et en fait quand David Diaz-Gonzalez me racontait que quand il a présenté aux personnes le fait qu'il allait les prendre en photo, beaucoup de personnes se sont dit « Ah non, attends 5 minutes, tu nous prends en photo », qui sont tous partis chez eux, ils ont arborer les vêtements traditionnels, puisque c'est comme ça qu'ils voulaient apparaître au monde et pour être regardés par les autres. Et donc on voit ces vêtements traditionnels, donc pour les hommes ce qu'on appelle la kushma, qui est donc la tunique masculine, qui est recouverte des kénés, ces formes géométriques qui sont à la base de l'iconographie Shipibo. On trouve ces kénés sur les bijoux de perles, les plastrons, les couronnes, mais aussi sur les jupes des femmes qu'on appelle les chitante, qui sont des œuvres qui demandent beaucoup de travail, qui sont souvent considérés comme le sommet de l'art du textile Shipibo. Pour constituer l'une de ces jupes, demande à une artisane souvent plusieurs mois de travail en y dédiant le gros de la journée. Et on retrouve ces formes géométriques, ces kénés qui sont représentés sur les jupes et à nouveau les bijoux de perles. Donc ces photographies aussi, elles donnent à voir l'importance du vêtement et de la représentation des kénés comme vecteur identitaire et d'affirmation culturelle pour ces communautés urbaines qui ne vivent plus bien souvent dans leur lieu d'origine.
Retour en studio avec David Dupuis. Alors, il y a aussi une revendication amérindienne autour de ses racines, hein, de cette culture Shipibo-Conibo, le port de ses étoffes, les kénés que vous décriviez, avec ses représentations géométriques, hein, inspirées des motifs aussi sur la peau de l'anaconda aussi, cet animal sacré, hein, cet énorme serpent d'Amazonie qui est très représenté aussi dans la cosmovision, hein, des Shipibo.
Oui, alors ces populations donc, qui vivent initialement de chasse, de pêche, d'horticulture, évidemment leur mode de vie traditionnel est menacé. D'abord par la déforestation, ensuite par des entreprises minières qui vont se livrer à des campagnes extractivistes, souvent d'ailleurs avec l'accord plus ou moins implicite de l'État péruvien. Donc on est quand même dans une situation post-coloniale où les populations autochtones, leur mode de vie est menacé, leur mode de subsistance traditionnel est menacé. C'est d'ailleurs pourquoi nombre d'entre eux migrent dans les villes, hein, pour la recherche de travail, de modes de subsistance. La plupart des artistes que j'ai rencontrés qui sont par exemple partis s'installer à Lima l'ont fait pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Donc effectivement, une société qui est en pleine mutation et qui subit des transformations contraintes, hein, par ces transformations économiques et ces transformations de leur milieu de vie.
Et donc ils revendiquent cette affirmation culturelle et identitaire, y compris dans les villes où ils sont installés aujourd'hui.
Tout à fait. En tant que population migrante, qui subissent donc évidemment des dynamiques d'acculturation, comme c'est le cas pour toutes les populations migrantes, il y a un attachement important aux vêtements, à la représentation des Kénés comme des vecteurs d'affirmation identitaire et d'affirmation culturelle.
Et il faudra aussi rappeler que les Chipibo Conibo ont été de grands résistants à l'évangélisation par l'Église catholique, avec les premiers missionnaires du XVIIe siècle. L'utilisation des Chipibo aussi comme main d'œuvre dans les plantations de caoutchouc, et puis d'autres vagues d'évangélisation, cette fois par les protestants dans les années 1930. Enfin, malgré tout, ils ont conservé donc leur identité et leurs croyances ancestrales, David Dupuis.
Oui, même si on observe aussi d'importants mouvements d'évangélisation protestants dans certaines communautés Chipibo. Ouais. Donc vous avez par exemple les deux artistes qui ont réalisé la peinture murale qui se trouve à l'entrée de l'exposition, qui sont deux artistes Chipiba. Quand j'ai échangé avec elles, donc, m'ont donc confié qu'elles venaient de se convertir à une forme de protestantisme
évangélique.
Il y a beaucoup de mouvements
Il y a un syncrétisme aussi.
Voilà, donc il faut faire attention aussi de ne pas considérer les populations autochtones, vous voyez, comme des populations qui devraient rester dans une sorte de stase historique sans transformer leurs représentations, leurs pratiques culturelles. Bien sûr, ce sont des populations qui, comme toutes les populations, sont en constante transformation. Et l'évangélisation en fait partie. Et ce qui est étonnant et ce qui est très intéressant dans le cas des Chipibo, c'est qu'ils traversent ces évolutions, ces transformations, tout en arrivant à conserver une singularité culturelle.
Alors nous allons dans cette émission parler des croyances ancestrales de ces sociétés amérindiennes d'Amazonie péruvienne et nous en parlons à partir de cette exposition, donc Vision chamanique, l'art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, dont vous êtes le commissaire, David Dupuis. Vous commenciez à en parler. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ayahuasca, à quoi ça ressemble? Puisqu'on parle de l'ayahuasca, puisque c'est une plante, une liane. Enfin, comment finalement le décrivent les Amérindiens Chipibo et qui s'en sert? C'est un mot quechua à la base.
Oui, alors l'ayahuasca c'est une liane, Banisteriopsis caapi de son nom scientifique, et c'est aussi le nom du breuvage dont cette liane est l'ingrédient principal.
On la traduit souvent par liane des morts.
Voilà, alors c'est une des traductions proposées pour donc, le quechua. Il y a d'autres hypothèses, mais donc c'est la traduction qui circule le plus. Et donc c'est un breuvage brun, marron, très amer, et donc qui est le résultat de la préparation bouillie de cette liane et dans la région des feuilles d'une autre plante qui s'appelle la chacruna, qui va donner donc un breuvage psychotrope, mais qui a aussi d'autres propriétés, notamment émétiques. C'est un breuvage qui donne la nausée, qui fait vomir, et qui est utilisé par les Chipibo. Alors il faut faire attention aussi de ne pas trop réduire le chamanisme Chipibo à l'usage de l'ayahuasca. Il y a beaucoup d'autres plantes qui sont mobilisées dans la médecine traditionnelle, dans le chamanisme Chipibo. Et il y a notamment l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca est utilisé traditionnellement par les chamans comme vecteur de rencontre avec les êtres habituellement invisibles, donc les esprits des plantes, les esprits animaux, et pour aller à la rencontre de ces êtres et donc négocier le plus souvent des choses auprès de ces êtres qui sont hautement ambivalents, puisque comme vous le signaliez tout à l'heure en parlant des quatre mondes Chipibo, en renvoyant au tableau de Harry Pinedo, il y a des êtres qui peuvent devenir des alliés dans ces mondes, mais sont des êtres, sont des relations, donc comme les relations humaines, vous voyez, on peut à la fois entrer en alliance, entrer en opposition, on peut avoir des ennemis, des amis. Et donc tout l'enjeu aussi du travail du chaman, c'est d'arriver à négocier ces relations.
Donc favoriser la chasse, par exemple, ou des pratiques de sorcellerie,
par exemple,
ou la guerre.
Voilà, donc ça peut être utilisé.
La magie amoureuse.
Voilà, traditionnellement, ça peut être utilisé, l'ayahuasca, pour aller rencontrer les esprits du gibier, pour négocier avec ces esprits le fait que, de diffuser un peu plus de gibier dans la forêt pour faciliter la chasse. Ça peut être utilisé aussi, alors là on va un peu briser quelques clichés de l'intérêt occidental pour ces substances, mais ça peut être aussi bien sûr utilisé pour la guerre, pour la sorcellerie, puisque l'ayahuasca est aussi utilisé pour blesser, tuer, rendre malade. Il y a tout un art en Amazonie, ce qu'on appelle les virotes, donc ces fléchettes magiques que les chamans envoient pour rendre malade ou tuer. On peut l'utiliser aussi pour la magie amoureuse. En somme, voilà, on va à la rencontre des esprits, on négocie avec les esprits un peu toutes les fins, qui peuvent être les fins d'un individu ou d'une communauté.
Alors dans cette exposition, David Dupuis, j'ai pu voir projeté sur un écran le documentaire de Vincent Gallet intitulé « Onaniati, art visionnaire sacré d'Amazonie ». Ce documentaire suit Jean-Michel Gassin, un passionné d'art ancestral qui a initié un projet de préservation des cultures et croyances à travers l'art, les sculptures, la peinture, dont certaines sont d'ailleurs exposées exposé au musée du Quai Branly, nous y reviendrons. Onaniati, qui signifie d'ailleurs la sagesse des anciens, c'est le nom Chipibo que s'est donné ce collectif d'artistes locaux. Alors, dans ce film, je vous propose tout d'abord d'écouter cet extrait. Celui qui parle s'appelle Don Abelardo Flores. Il est curandero, chaman guérisseur. Il décrit ce passage vers le monde invisible avec l'ayahuasca dont vous parliez, David Dupuis, à l'instant.
Eso funciona.
Voilà comment cela fonctionne. Quand on entre en transe avec l'ayahuasca, on commence à chanter les chants de soins. Et grâce à ces chants, on peut commencer à voir les bons esprits et les mauvais esprits. C'est pour cela qu'on prend de l'ayahuasca, pour voir dans la transe tout ce que l'on a besoin de voir, ce dont le patient a besoin. Par exemple, une personne dont je ne connais pas la maladie, la transe de l'ayahuasca va me permettre de voir comment est la maladie de cette personne. À partir du moment où j'ai vu ce qu'il y a dans cette personne, là, je commence à soigner. Et je vais demander de quelles plantes j'aurai besoin pour soigner cette personne. Sur cette base, je prépare le remède pour qu'elle le boive.
Alors ce chant est appelé Cantico de Sanación, le chant de guérison, et donc ce chaman parle effectivement de patient, de guérison. Il se met avec ce breuvage dans un état de conscience modifié pour entrer en contact avec les esprits, David Dupuis, donc les esprits qui peuvent aussi trouver un moyen de guérison envers une autre personne qui est atteinte d'un mal.
Oui, cette séquence est intéressante puisqu'elle illustre vraiment la dynamique très classique de la cure chamanique dans les rituels d'ayahuasca dans la région. Alors, comme vous l'aurez noté, le guérisseur d'ailleurs évoque le fait que c'est lui qui prend l'ayahuasca.
Et pas le patient.
Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que traditionnellement, c'est quand même plutôt le chaman qui prend l'ayahuasca à des fins diagnostiques, comme il l'explique très bien dans cette séquence. C'est-à-dire qu'on prend l'ayahuasca pour identifier le mal du patient, du participant, pour identifier l'origine de son mal, si c'est une origine sorcellaire par exemple, et aussi pour aller entrer en relation avec les esprits des plantes qui vont éventuellement indiquer le remède. Donc on utilise l'ayahuasca à des fins diagnostiques, mais aussi afin de composer le traitement, afin d'avoir des indications sur le traitement qui convient aux malades. Alors c'est intéressant, il y a aussi beaucoup de chamans Chipibo qui vous disent que lorsqu'ils prennent l'ayahuasca, ils voient les kénés, donc ces formes géométriques qui sont mises à l'honneur dans l'exposition, ils voient les kénés sur le corps du participant et qu'une personne malade, donc les kénés sont brisés, déformés.
Donc ces formes géométriques.
Voilà, et l'un des aspects du travail chamanique va être de redresser ces kénés, de leur redonner de la couleur, de recomposer une belle composition géométrique.
Mais vous-même, vous avez expérimenté ce breuvage, puisque vous êtes resté 18 mois dans un endroit d'Amazonie péruvienne avec les Chipibo, et comment pourriez-vous raconter ce que vous-même vous avez vécu? Donc normalement, vous dites effectivement c'est le chaman qui prend ce breuvage, mais de plus en plus donc d'occidentaux, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais vont aussi en Amazonie pour expérimenter ce que produit cette substance hallucinogène. Quel souvenir de cet état de conscience modifié avez-vous vous-même, David Dupuis?
Oui, alors moi j'ai travaillé beaucoup dans la région de San Martín et également plus récemment dans l'Ucayali. Et alors oui, donc je suis anthropologue et donc pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, donc la méthode de recherche de l'anthropologie est ce qu'on appelle, s'appuie notamment sur ce qu'on appelle l'observation participante. Alors ça veut dire que quand on est anthropologue, pour prétendre connaître quelque chose, il ne suffit pas de lire à son sujet, il faut partir.
Expérimenter.
Observer d'abord, on observe et on partage la vie quotidienne des personnes avec lesquelles on travaille. Et il y a aussi cette idée qu'il faut participer pour comprendre. Donc il y a quand même cette idée d'engagement du corps et que c'est aussi en partageant une condition commune qu'on peut devenir un interlocuteur digne de ce nom pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc dans ce cadre, effectivement, j'ai participé à différentes cérémonies qui impliquaient l'usage de l'ayahuasca. Alors oui, c'est une expérience déjà qui est marquée par une dimension sensorielle assez forte, qui est marquée par les nausées, le vomissement. Vous êtes donc ça se prend plus souvent la nuit dans des huttes qui s'appellent des malokas et sous la direction de guérisseurs qui vont donc, comme l'indiquait l'extrait précédent, chanter tout au long de la nuit, mais aussi utiliser des parfums, de la fumée de tabac qui sont soufflés sur votre corps. Et donc, alors voilà, on appelle ça une substance hallucinogène. Et quand vous faites l'expérience de cette substance, vous comprenez que le mot a été bien mal choisi, puisque on n'a pas nécessairement des visions. C'est pas du tout automatique. Par contre, les nausées, les vomissements, les troubles du contrôle moteur, c'est très difficile de marcher, etc. Ça, c'est toujours là. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a aussi une dimension émotionnelle très importante. C'est-à-dire que les émotions que vous ressentez sont extrêmement amplifiées. Il y a beaucoup de souvenirs aussi qui reviennent, des souvenirs notamment liés à des fortes intensités émotionnelles. Et puis, il y a des effets un peu qu'on appelle dissociatifs du breuvage, qui fait que vous voyez beaucoup de l'extérieur. Donc, quand vous êtes comme moi, un occidental, pétri de culture introspective et réflexive, éventuellement aussi de culture psychologique, et que vous êtes invité à l'autoréflexivité du fait aussi que vous êtes anthropologue et chercheur, vous avez beaucoup de prise de conscience, voilà, sur « ah bah tiens, c'est vrai que je suis comme ça, voilà mes comportements ». Et c'est un des effets d'ailleurs qui est recherché par les Occidentaux, qui investissent souvent ces pratiques comme des vecteurs de psychothérapie. Et éventuellement, vous pouvez avoir aussi des visions. Alors les visions, ce sont ces images mentales qui sont très augmentées, qui apparaissent sous un format très réel, et qui apparaissent souvent en surimpression des perceptions ordinaires. Donc ça peut être ces formes géométriques que vous voyez souvent dans les premiers stades de l'expérience qui vont apparaître en surimpression des sols, des murs, etc. Et puis dans un deuxième temps, souvent, va émerger des personnages, des êtres qui évoluent au sein de paysages et qui éventuellement entrent en relation avec vous. Alors là, vous pouvez aussi commencer à entendre des voix, puisqu'on parle souvent des visions, mais les voix sont également présentes.
Un phénomène sonore, sensoriel.
Voilà, et donc ces êtres peuvent commencer à échanger avec vous, donc vous pouvez entamer une discussion, voilà, profiter de la nuit pour échanger avec ces êtres. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais voilà, l'expérience, le plus souvent, mène à ce type de choses, même quand vous êtes un occidental d'origine normande comme moi.
Alors vous parliez, David Dupuis, de cette expérience effectivement en Amazonie péruvienne auprès des Shipibos. Avant de poursuivre, je vous propose de partir sur un autre continent, en Afrique, au Gabon précisément, où des prêtres bouitistes pratiquent ce qu'on appelle le bouiti, donc le rite ancestral proche de ceux des Shipibo-Konibo d'ailleurs, avec l'ayahuasca, mais le bouiti étant le rite initiatique des jeunes hommes vers l'âge adulte et en utilisant une autre plante sous forme plutôt de poudre, l'iboga. Notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Gomain, a pu rencontrer un prêtre bouiti qui raconte ce rite de la harpe qui accompagne ce qui va initier, un instrument donc de mise en relation des initiés dans l'au-delà, auprès des esprits, des ancêtres, avec l'aide de cette iboga, donc cette plante aux vertus similaires à l'ayahuasca.
La nuit vient de tomber au Pekawit, 3e arrondissement de Libreville. Maxime Madouma prépare une cérémonie d'initiation. Sa harpe déverse une mélodie envoûtante qui accompagne l'une des chansons des initiations. Aïe!
Le morceau que je viens de jouer s'appelle le Mitombo. Mitombo Myokaba Bobengama Kombe Mwanangundu. C'est un morceau ou une chanson qui élève les esprits des initiés.
Dans la société traditionnelle gabonaise, l'initiation est un rite de passage entre l'adolescence et l'âge adulte.
On s'initie pour être un homme. Parce que quand on perdait nos papas, il y a toujours des rituels qui se font dans les temples ou dans les corps des gars. Mais si tu n'as pas un enfant qui est initié, quand ton père va mourir, tu ne sauras rien de ce qu'on peut faire de ton père.
Pas d'initiation sans la harpe et surtout l'iboga ou bois sacré.
Le bois sacré est la croix de transmission entre l'initié et le monde ancestral. C'est-à-dire, dès que tu prends le bois sacré, tu sors du monde des vivants pour aller croiser le monde des morts. Et c'est ce qui te permet d'être en communication avec les parents qui sont partis. Donc voilà pourquoi le bois sacré intervient. Que si tu as un problème spirituel, le bois sacré peut te purifier, il peut purifier le corps, il peut enlever.
Est-ce qu'on peut imaginer une cérémonie d'initiation sans bois sacré?
Une cérémonie d'initiation sans bois sacré, ça n'existe pas. Parce que si on n'a pas le bois sacré, tu t'inities à quoi alors? Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. Yaoi! 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 Yo, mami, yabe!
L'iboga est une espèce de plante dicotylédone endémique au Gabon. Ce sont des petits arbustes qui peuvent atteindre 6 mètres de haut. Les adeptes du Bouti, l'un des puissants rites initiatiques du Gabon, l'ont surnommé bois sacré en rapport avec ses vertus insondables.
Le bois sacré permet à l'homme de voyager, quitter sa coquille, aller au-delà de lui et aller croiser tes ancêtres, aller discuter de vive voix avec tes ancêtres.
La réputation de l'iboga dépasse les frontières du continent noir. De nombreux Occidentaux franchissent le pas et se font initier.
Il y a certaines personnes qui initient les Blancs, mais on ne partage pas le secret professionnel. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de Blancs, vont, quand ils vont parfois en étranger, ils vont chercher à initier. Il y a d'autres qui tuent les gens. Parce que le bois sacré, on ne donne pas ça à n'importe qui et n'importe comment. Pour donner à quelqu'un le bois sacré, il faut d'abord purifier la personne. Les Nganga qui donnent le bois sacré aux Blancs, et ils ont besoin de leur argent. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. C'est l'argent qui les intéresse.
Classée en Europe comme une plante hallucinogène, donc interdite de consommation, Maxime Madouma estime que c'est une pire injure.
C'est une insulte. Ce n'est pas une drogue. On ne consomme pas le bois sacré pour être drogué. Mais on consomme le bois sacré pour visionner, pour voir. Parce que la drogue, quand tu consommes la drogue, tu peux aller tuer quelqu'un. Tu peux aller agresser quelqu'un. Mais quand tu prends le bois sacré, tu ne peux pas aller agresser quelqu'un. Pour moi, c'est une insulte.
L'arbuste est menacé de disparition à cause, entre autres, de l'exportation frauduleuse.
Ne faites pas voyager le bois sacré pour aller en Occident. Parce que sinon, ça, on risque de perdre ce bois sacré-là. On va retrouver ça maintenant en étranger et ça va se perdre chez nous.
Défenseur de l'iboga, Hervé Amba, traditionnaliste, se bat depuis 2 décennies à promouvoir la culture de l'iboga pour éviter sa disparition.
Il faut reconnaître que le Gabon est la terre par excellence de l'iboga. La Bible des Gabonais, la religion des Gabonais se trouve dans l'iboga. À partir de l'iboga, on peut retrouver notre Bible, on peut retrouver nos religions, on peut retrouver notre façon d'être en lien avec Dieu.
Combattu par l'administration coloniale, le Bouiti et l'iboga restent ancrés dans la société gabonaise. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
David Dupuis, une réaction à ce reportage d'Yves Laurent Goma, donc sur l'iboga. On trouve beaucoup de similitudes avec l'ayahuasca et ce qui se passe auprès des Shipibo, Konibo.
Oui, tout à fait. C'est assez frappant de voir les problématiques communes entre ce qu'on appelle le tourisme chamanique qui s'est développé en Amazonie péruvienne et qui s'est également développé au Gabon, avec cet intérêt croissant des Européens et des Nord-Américains pour ces expériences et qui a vraiment développé toute une industrie avec éventuellement les dérives commerciales qui sont évoquées dans cette séquence.
Alors l'énigme de l'ayahuasca et de ses effets, vous en parliez David Dupuis, c'est surtout à partir des années 50 que l'ayahuasca et ses propriétés psychotropes émergent en Occident, qui la classe donc comme une drogue. On entendait donc le prêtre bouddhiste qui prenait ça comme une injure, effectivement. Dans la pop culture des années 70, le New Age, l'ayahuasca, comme aussi l'iboga au Gabon d'ailleurs, on vient de l'entendre, attire ceux qui veulent expérimenter ce breuvage comme une expérience hallucinatoire personnelle. On parle donc de globalisation de l'ayahuasca, ce que vous disiez, donc le tourisme de l'ayahuasca, David Dupuis. Pourquoi ça se développe à grande échelle à ce moment-là?
Alors ça démarre dans les années 50, mais assez timidement. C'est-à-dire qu'il y a quelques artistes, quelques pionniers comme William Burroughs par exemple, qui vont se rendre en Amazonie péruvienne pour aller prendre l'ayahuasca. Alors ça s'inscrit dans tout le mouvement de la contre-culture à cette époque-là, qui va revisiter le rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'Occident et les populations extra-occidentales qui sont encore perçues à cette époque comme, avec beaucoup de guillemets, primitives. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un renversement de la valeur associée aux primitifs, c'est-à-dire que Donc c'est les catégories de la vieille anthropologie évolutionniste, avec cette idée que l'Occident serait à la fin de l'histoire et que d'autres peuples seraient restés au début de l'histoire. Donc voilà, des peuples de chasseurs-cueilleurs seraient donc l'équivalent de notre propre condition en Europe lorsque les Européens vivaient comme des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est une vision très problématique à beaucoup d'égards, bien sûr, qui n'est plus du tout utilisée par les anthropologues d'aujourd'hui, et qui est notamment revisitée dans les années 50, dans les années 60, dans le cadre de la contre-culture, où la figure de l'altérité autochtone, de l'altérité entre guillemets primitive, se drape là de vertus positives. Donc il y a cette idée qui commence à se développer que, oui, ce sont donc des primitifs, c'est-à-dire des personnes qui sont restées entre guillemets à un stade antérieur historique par rapport à nos sociétés, mais justement, ils auraient gardé des choses que nous aurions perdues par le processus d'industrialisation, d'urbanisation, de sécularisation. Et donc commence à naître cette idée que l'homme ou la femme occidentale pourrait avoir à se régénérer, à se réinventer au contact de cette altérité primitive, et notamment par la participation à des rites qui impliquent l'usage de substances qui commencent à être qualifiées à cette époque comme psychédéliques. On est aussi à la période où le LSD arrive aux États-Unis, où il y a le mouvement psychédélique qui commence à naître, il y a un
avec
intérêt
très
fort. Avec
toutes les expérimentations, effectivement,
voilà,
dans ces années-là.
Et donc il y a les rencontres à cette période-là, et donc ça commence à cette période-là, et ça explose vraiment dans les années 90, en se concentrant en Amazonie péruvienne notamment, avec la naissance de ce qu'on a appelé les centres chamaniques, donc ces institutions qui sont dédiées à l'accueil de cette clientèle internationale qui vient à la rencontre des chamans pour aller prendre l'ayahuasca.
Et vous avez beaucoup travaillé sur ces endroits, justement sur ces lieux de rencontre, finalement, entre les sociétés traditionnelles Shipibo et ces Occidentaux qui viennent en quête de différentes choses.
Oui, tout à fait. Alors moi, je travaille depuis le début des années 2000 sur... C'était le moment où vraiment en France, ça commençait à devenir un phénomène assez important, qui d'ailleurs produisait des réactions des pouvoirs publics qui ont à cette période interdit l'ayahuasca. Donc il y avait beaucoup d'Européens, notamment de Français, qui se rendaient en Amazonie péruvienne pour aller prendre l'ayahuasca. Donc je suis allé enquêter dans la région de San Martin, voilà, pour aller un peu voir ce que ces Occidentaux cherchaient, ce qu'ils y trouvaient, et aussi observer l'impact de ce phénomène social sur les populations autochtones, et notamment donc l'émergence de ces centres chamaniques.
Tout à fait. Et une autre dimension qui apparaît, postérieure ou concomitante, c'est l'expansion de l'art Shipibo Conibo, avec donc cette émergence d'artistes d'origine Shipibo ou de la région qui s'organise. On l'a évoqué au début de l'émission avec ce collectif Onaniati, qui signifie donc la sagesse des anciens. Plusieurs de leurs œuvres, les sculptures, les peintures, sont exposées au musée du Quai Branly. Et dans le documentaire de Vincent Gallet, qui est donc diffusé sur un écran, je voudrais vous faire entendre ces jeunes artistes qui s'expriment donc sur leur peinture visionnaire et sur leur lien à leur culture ancestrale. Par exemple, Jefferson Saldana Valera, qui est peintre, chaman guérisseur et président d'Odaniati.
Au niveau culturel, ici même, les gens ne sont pas très bien informés et perdent cette tradition orale des mythes et des légendes. Et grâce à ces statues et à ce projet, nous redonnons de la valeur à tout ce qui est occulté, disons, plutôt que perdu. Quand j'ai commencé mon apprentissage avec les plantes, je me suis rendu compte que dans ce monde, on pouvait pour ainsi dire rencontrer des maîtres de l'art, avec certaines plantes qui sont utilisées spécialement pour l'art. C'est ainsi que les maîtres qui m'ont initié au monde du chamanisme ont fait diéter ces plantes, précisément pour me permettre de développer mon talent. Ainsi, en diétant ces plantes, je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais apprendre beaucoup sur l'art visionnaire et la créativité.
Alors, on entend dans cet extrait Jefferson Saldana Valera utiliser l'expression « diéter des plantes ». Vous pouvez expliquer ?
Oui, alors la diète, c'est une technique qui est panamazonienne, qui est utilisée dans beaucoup de régions d'Amazonie, qui encadre notamment, mais pas seulement, la prise de certaines plantes. Donc ce qu'on appelle diéter une plante, c'est ingérer une plante qui, d'une manière particulière, en l'entourant de prohibitions alimentaires, sexuelles, relationnelles. Alors souvent, des guérisseurs me disaient, oui, ce que vous faites là, les gringos, à boire des infusions, ça sert absolument à rien. Si vous voulez que les plantes elles aient le pouvoir thérapeutique des pastillas, des médicaments occidentaux, il faut les diéter. Donc il ne suffit pas d'ingérer les plantes.
Il faut les prendre dans certaines conditions.
Voilà. Donc on va notamment retirer le sel, le sucre, la viande. Et on va isoler la personne. Donc la personne va rester dans ce qu'on appelle un tambo, une petite cabane dans la forêt, en isolement quasi total pendant plusieurs jours à plusieurs mois et va donc ingérer cette plante quotidiennement. Alors ça peut être fait à des fins thérapeutiques, on peut diéter une plante pour se soigner, mais aussi à des fins initiatiques, hein. C'est aussi l'une des modalités de l'initiation chamanique, puisque en diétant une plante, en la consommant quotidiennement dans le cadre d'un isolement complet, on va pouvoir aussi entrer en relation avec ces fameux esprits des plantes qui vont apparaître notamment dans les rêves.
Alors ce qui est intéressant dans ce que dit Jefferson Saldana Valera qu'on a entendu, qui parle de redonner de la valeur à ce qui a été occulté, donc ces jeunes artistes qui se réapproprient leur propre culture, leurs rites, pour les faire découvrir donc autrement par l'art, David Dupuis.
Oui, alors le cas d'Onagnati est intéressant puisqu'il illustre quelque chose que j'ai souhaité souligné dans l'exposition, qui est la dynamique interculturelle de cet art. C'est-à-dire comment cet art aussi émerge de rencontres interculturelles. Et c'est effectivement un Français, Jean-Michel, qui a rassemblé...
Jean-Michel Gassin, oui.
Tout à fait, qui a rassemblé des sculpteurs, des peintres, pour conduire ce projet collectif, qui est maintenant présidé par Refelson. Donc qui a vraiment donné naissance à une école, hein, qui produit ces sculptures peintes, qui sont assez saisissantes, qui sont exposées au Quai Branly. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit aussi comment... finalement, l'intérêt des Européens et des Occidentaux pour l'ayahuasca, pour les cultures autochtones, conduit aussi les populations locales à réinvestir certains aspects de leur culture, à pouvoir les mettre en valeur. Parce qu'évidemment, il y a des dérives, comme ça a été évoqué plus tôt dans le tourisme chamanique, notamment des dérives commerciales et puis une standardisation des pratiques, bien sûr. Mais l'intérêt aussi des Occidentaux pour ces pratiques a aussi produit une revivification de ces pratiques. Puisque désormais, prendre l'ayahuasca, donner l'ayahuasca, c'est une manière de se mettre en lien avec des étrangers, de voyager à l'international, de gagner sa vie. Donc ça a fait renaître des vocations là où dans beaucoup de communautés, il n'y avait plus beaucoup de jeunes qui étaient désireux de faire l'initiation chamanique.
Vous parliez de l'ayahuasca et d'autres plantes. Et effectivement, un autre artiste qui s'exprime dans ce documentaire de Vincent Gallet, le sculpteur Betson Makawachi, lui utilise le tabac, une des plantes sacrées pour les Shipibo Conibo.
Yo mayormente para yo inspirarme siempre utilizo el tabaco, no es porque
principalement pour m'inspirer moi, j'utilise le tabac parce que parfois on a une motivation comme par exemple le lien avec la médecine des plantes et le tabac aussi est une plante très sacrée.
A veces yo agarro una madera, no sé ni qué voy a hacer, pero poco.
Par exemple, je prends un morceau de bois sans trop savoir ce que je vais faire, mais petit à petit, cette idée entre en moi. Je commence à sculpter, à faire sortir un visage, un autre et encore un autre. Et c'est comme ça que se forme mon art.
Voilà, donc c'est comme ça que se forme mon art. Donc il y a cette inspiration très forte, qu'on ressent d'ailleurs dans ces œuvres qui sont exposées, David Dupuis.
Oui, alors ça c'est un cas assez intéressant, le tabac, qui comme vous le savez est un terrible problème de santé publique dans nos sociétés. Et une des principales plantes médicinales pour les populations amazoniennes. D'ailleurs, je me souviens d'un échange avec un guérisseur lamista dans la région de San Martín qui me disait que je ne fumais pas assez, que c'était un problème. Et je lui répondais, tu sais quand même, moi dans ma société, que c'est un peu problématique de fumer, ça tue, etc. Et puisqu'il avait réfléchi, il m'avait dit, non, je ne pense pas que c'est ça. Et après, il était revenu, il m'a dit, oui, mais c'est vrai que vous, les gringos, vous prenez le tabac, mais vous ne faites pas toutes les pratiques qui, normalement, doivent encadrer l'usage du tabac. Or, le tabac, dans le tabac, il y a un esprit puissant. Et si vous le prenez sans respect, c'est bien possible qu'il fasse de vous son esclave et qu'à la fin, il vous tue. Voilà, qui était une métaphore, donc, que vous comprenez, pour l'addiction et tous les problèmes de santé que peuvent provoquer le tabac.
David Dupuis, nous retournons une dernière fois au musée du Quai Branly dans cette exposition Vision chamanique, puisque vous me décriviez un des tableaux de l'artiste pionnier qui a inspiré ce qu'on vient d'entendre. David Dupuis, nous sommes devant un tableau qui représente des figures, des personnages, la nature. C'est extrêmement foisonnant, avec beaucoup de couleurs. Et ça, ce sont des représentations artistiques de visions chamaniques, d'artistes contemporains.
Oui, alors là, on est devant un tableau de Pablo Amaringo, qui est le pionnier et la grande figure de ce qu'on appelait la peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. Donc ces artistes qui viennent plutôt d'espaces urbains d'Amazonie péruvienne qui au début des années 90 commencent à peindre leur vision. Donc Pablo Amaringo était le premier à peindre ses visions et a connu d'ailleurs un succès international. D'ailleurs intéressant, il a commencé à peindre ses visions à l'invitation d'un anthropologue colombien, Luis Eduardo Luna. Et ils ont écrit ensemble un livre qui a circulé partout dans le monde et il a exposé son travail partout dans le monde. Son travail a vraiment fait naître ce courant de peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne. Alors comme vous pouvez le voir, les tableaux de Pablo Marengo sont souvent composés de la même manière. On voit ici sur la gauche, donc sur tableau qui est l'un des chefs-d'œuvre de Pablo Marengo qui s'appelle Cosmología Amazónica, donc cosmologie amazonienne. On voit donc sur l'espace en bas à gauche un groupe de personnes assises en cercle dans une cabane. Alors ces personnes, simplement des personnes qui sont en train de prendre l'ayahuasca. D'ailleurs on voit un personnage qui vomit au bord de la cabane puisque l'ayahuasca fait vomir. Vous avez ensuite des éléments de représentation naturaliste, le fleuve, le ciel, la forêt, cette cabane. Et en surimpression, le paysage visionnaire, donc très coloré, recouvert de personnages. Et ça, ça renvoie à l'expérience visionnaire puisque les visions suscitées par l'ayahuasca le plus souvent apparaissent en surimpression des perceptions ordinaires. C'est-à-dire que vous continuez à voir les sols, les murs, les visages, mais les visions apparaissent comme par-dessus les perceptions ordinaires. Et ce tableau aussi intéressant puisqu'il donne à voir la cosmologie très éclectique de ce qu'on appelle le curanderismo, qui est représenté ici par Pablo Marengo, c'est-à-dire cette tradition du chamanisme métis urbain des villes d'Amazonie péruvienne, qui est un véritable creuset interculturel où se rencontrent le chamanisme autochtone, du catholicisme, des éléments d'ésotérisme, de magie, voire de pop culture. Et donc on voit ici dans ce tableau voilà, des figures mythologiques comme cette anaconda aquatique, qui sont des figures mythologiques d'Amazonie péruvienne, mais aussi un moine franciscain, des Incas et même une soucoupe volante avec des extraterrestres.
Il y a aussi des femmes qui peignent, qui représentent des figures plus géométriques, ce qu'on appelle les kénés. Et ce sont aussi des visions qu'on retrouve sur les tissus, des motifs qu'on retrouve sur les tissus, sur des peintures.
Oui, alors les kénés sont vraiment la base de l'iconographie shipibo. Chez les shipibo, traditionnellement, ce sont les femmes qui produisent l'art, soit la céramique, les textiles. Et ces trois artistes ont intégré le marché de l'art international avec succès et témoignent voilà, de l'insertion des shipibo dans le marché de l'art. Et il y a une dimension politique aussi dans le travail de ces artistes puisque la pénétration du marché de l'art est aussi investie comme une manière de donner à voir la culture shipibo comme un vecteur d'affirmation culturelle, de visibilisation et de revendication politique, puisque les shipibo rencontrent d'importants problèmes territoriaux, économiques et sociaux.
David Dupuis, dans cette exposition Vision chamanique, on trouve également toute une partie qui est consacrée à l'art occidental, qui a produit des œuvres aussi à partir des expériences de l'ayahuasca, des représentations donc géométriques, étonnamment proches d'ailleurs des représentations des shipibo avec les kénés, ces dessins géométriques. Mmh. C'est étonnant.
Le parti pris de cette exposition, c'est, comme je vous le disais, de donner à voir aussi toutes ces dimensions interculturelles, la dynamique interculturelle qui sous-tend la naissance de cet art et qui est notamment suscité par la globalisation de l'ayahuasca. Donc dans ce cadre, à partir des années 90, on a plusieurs artistes occidentaux qui sont partis en Amazonie faire l'expérience de l'ayahuasca et ça a durablement influencé leur travail, que ce soit William Burroughs, son travail littéraire, le cinéaste Yann Kounen, des peintres. Donc on voit aussi de l'art digital dans cette section, de la peinture. Oui, donc effectivement, ça a donné naissance à un courant qui déjà avait émergé à partir des années 60, qu'on appelait l'art psychédélique, et qui se caractérise notamment effectivement par ces motifs géométriques qui sont étonnamment proches de l'art qu'on voit dans la première section de l'exposition, donc l'art autochtone des Kénés Shipibo. Alors c'est pas si étonnant puisque effectivement on prend la même substance et ces formes géométriques qui apparaissent souvent au premier stade de l'expérience de l'ayahuasca sont, semble-t-il, transculturelles. C'est-à-dire que quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, quand vous prenez l'ayahuasca, vous avez de fortes chances de voir ces formes géométriques. Ça a d'ailleurs attiré très tôt l'attention des scientifiques qui ont travaillé sur ces substances et qui ont essayé de comprendre, notamment depuis une perspective neuropharmacologique, d'où venaient ces récurrences transculturelles.
Alors David Dupuis, vous l'aviez évoqué, pour la fin de cette émission, je voudrais qu'on se reconcentre un petit peu sur ce tourisme global dont vous parliez, puisque cela concerne aussi bien l'ayahuasca que l'iboga sur le Gabon. Mais de quelle façon, par exemple, ce tourisme chamanique qui s'est donc développé, notamment, vous parliez des années 90 surtout, et qui continue encore aujourd'hui, de quelle façon ce tourisme chamanique donc a transformé les sociétés Chipibo-Conibo? Vous commenciez à en parler. Oui, il faut arriver à trouver des moyens de subsistance, mais est-ce que ça ne déstructure pas d'une certaine manière les sociétés Chipibo-Conibo aussi?
Bien sûr, alors effectivement, le tourisme chamanique, ça a été un afflux d'argent hein, pour ces populations autochtones qui vivent en Amazonie péruvienne et qui connaissent des difficultés économiques et sociales importantes. Donc ça a été perçu quand même comme une manne hein, par certaines communautés qui se ont créé des institutions, d'ailleurs souvent en partenariat avec des occidentaux, donc ce qu'on appelle ces centres chamaniques qui accueillent les occidentaux partis à la recherche de l'ayahuasca.
Alors, on parle aussi du marché de la guérison, enfin voilà, pour oui, avec des entrepreneurs chamaniques.
Tout à fait. Alors évidemment, quand l'argent arrive dans les communautés, ça peut être bénéfique, mais ça peut aussi être très déstructurant pour les communautés, puisque bah, tout le monde ne bénéficie pas également de cette manne. Donc ça peut créer beaucoup de jalousie, de problèmes dans les communautés, et ça a aussi beaucoup transformé les pratiques. Donc c'est aussi un truc qui viennent beaucoup avec cette idée que l'ayahuasca est une sorte de psychothérapie. Ils partent en Amazonie, prennent l'ayahuasca d'abord pour mieux se connaître eux-mêmes, ce qui est assez étranger quand même à l'usage traditionnel de l'ayahuasca en Amazonie. Et donc c'était assez étonnant de voir au fur et à mesure des années ces guérisseurs autochtones s'adapter à la demande des occidentaux et peu à peu intégrer les catégories nosologiques occidentales. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des guérisseurs autochtones qui vous disent qu'ils soignent le burn-out, la dépression, voilà, ce qui est évidemment tout à fait étranger au contexte traditionnel. Donc il y a eu une adaptation aussi dans le discours qui s'associe à voilà, qu'est-ce qu'est l'ayahuasca, à quoi sert l'ayahuasca. Il y a une forte adaptation aux attentes des occidentaux et notamment un changement important pour les Chipibo qui a été de donner l'ayahuasca à tout le monde. Ça a aussi transformé les chants qui sont maintenant aussi beaucoup plus adressés aux participants. Donc la fonction des chants qui initialement est une mise en relation avec les esprits devient aussi maintenant un vecteur de relation avec les participants. Donc ça a suscité beaucoup de transformations. Alors on peut s'en affliger, on peut voir ça comme la destruction de pratiques traditionnelles qui sont corrompues par les attentes des occidentaux. On peut aussi voir ça comme des transformations, puisque le chamanisme, historiquement, en Amazonie, est constitué d'échanges interculturels. C'est-à-dire que dans l'initiation chamanique, on va souvent aller au sein d'un autre groupe pour apprendre des chants, pour apprendre comment préparer certaines plantes. Et le chaman, comme, c'est un peu l'ambassadeur de la communauté, déjà entre le monde des esprits et la communauté. Et donc il y a cette idée que le chaman en Amazonie, c'est un peu le spécialiste de l'altérité, notamment de l'altérité culturelle. Donc ils se sont très bien adaptés aux demandes des occidentaux, et finalement on peut voir ces transformations comme l'avatar mondialisé de cette dynamique de transformation et d'emprunt interculturel qui est historiquement constitutif du fait chamanique en Amazonie.
Merci beaucoup David Dupuis d'être venu dans nos studios pour nous parler de l'ayahuasca et des croyances ancestrales des populations Chipibo-Conibo en Amazonie péruvienne. Merci à notre correspondant Yves-Laurent Goma pour son reportage sur le rite Bwiti et l'utilisation de l'iboga. On a vu les similitudes qu'il pouvait y avoir. Cette émission a été réalisée par Alexandre Caillouel. Vous pouvez la réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.